Dans les années 70, ils ont été parmi les premiers scientifiques à alerter l'opinion sur la diminution de la matière organique dans les sols. Depuis, les microbiologistes Lydia et Claude Bourguignon n'ont cessé de parcourir le monde pour éveiller les consciences et rencontrer celles et ceux qui pratiquent une agriculture respectueuse des sols. Les Bourguignon publient chez Actes Sud un manifeste pour une agriculture durable, 60 pages condensées pour dire la nécessité de redonner à l'agriculture durable le rôle central qu'elle a toujours eu dans les civilisations, avec des solutions concrètes pour faire évoluer les pratiques. Ils sont mes invités dans un instant pour répondre à vos messages et à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, des chercheurs révèlent que c'est une pluie de comètes qui a transformé l'atmosphère de notre planète il y a 4 milliards d'années.
Oui, et c'est encore une découverte faite grâce aux données de la sonde Rosetta autour de la comète Chury, peut-être la plus importante de toute la mission. On en discute avec le géochimiste et co-auteur de cette étude, Bernard Marty.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée par Chantal Lemontagnier avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Lydia et Claude Bourguignon, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous signez chez Actes Sud ce manifeste pour une agriculture durable. À l'instar de la maltraitance animale, on a le sentiment en vous lisant que l'on peut aussi parler de maltraitance des sols lorsqu'il s'agit d'agriculture intensive. On va parler avec vous d'une destruction à grande échelle, Lydia Bourguignon.
Oui, il y a une destruction à grande échelle des sols en France et dans le monde.
Heureusement, la Terre a une capacité de résilience, Claude Bourguignon.
Ah oui, si on se met à la gérer à nouveau correctement, elle reprend sa fertilité. Oui.
Il y a des solutions concrètes
Solutions tout à fait concrètes.
Mettre en place
hein. Oui, tout à fait.
Il faut du temps, de la patience.
Il faut entre 5 ans et parfois jusqu'à, ça dépend de l'état de dégradation, jusqu'à 25 ans pour remettre un sol debout.
L'agriculture durable, donc on va en parler avec vous, c'est le thème de notre dossier dans un instant pour comprendre justement à quoi peut ressembler cette agriculture. Et puis vous allez répondre donc au message des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr. Vous vous en souvenez sûrement, en septembre dernier, la sonde Rosetta s'écrasait sur la comète Chury à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. Eh bien, ces données continuent d'être analysées et un groupe de scientifiques, parmi lesquels des Français, publie ce nouveau résultat important au sujet de la Terre qui, dans les tout premiers temps de son histoire, a été bombardée par de la matière cométaire. Et c'est l'analyse de la composition de la comète Chury qui nous l'apprend. Bernard Marty, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de géochimie à l'École nationale supérieure de géologie, chercheur CNRS au laboratoire pétrochimie et géochimie de l'Université de Lorraine, et vous êtes également premier auteur de cette découverte parue dans la revue Science. Qu'est-ce que l'analyse de la composition de la comète Chury nous a appris de nouveau sur l'origine de notre atmosphère ?
Bien, nous avons analysé un gaz qui est en très faible abondance, c'est un gaz rare, le xénon. Et qui nous a donné une clé pour comprendre la relation génétique qui est entre la matière cométaire et l'atmosphère de la Terre.
C'est rigolo, vous parlez de relation génétique. Qu'est-ce que c'est une relation génétique ?
Eh bien, en fait, chaque élément, si vous voulez, a une composition bien spécifique. Donc, l'élément xénon, par exemple, a une chimie. En fait, il a peu de chimie, il est inerte. Mais il y a également des isotopes, c'est-à-dire plusieurs espèces de xénons qui ont des masses un peu différentes et dont la composition, le mélange, permet en fait de tracer la relation génétique qu'il peut y avoir entre différents réservoirs, de la même façon que l'ADN permet effectivement de reconnaître des liens de parenté entre différentes populations.
Et le résultat, c'est que le xénon de notre atmosphère est en partie originaire des comètes, c'est ça qu'il faut retenir ?
Oui, tout à fait. En fait, grâce à l'analyse de la comète, enfin du xénon relâché par la comète, nous sommes arrivés à mettre en évidence qu'il avait un signal dans sa composition isotopique que l'on retrouvait dans l'atmosphère terrestre. Alors c'était une grande énigme scientifique. Ça fait un moment qu'on savait que l'atmosphère terrestre avait une composition un peu particulière qui faisait qu'elle était différente des autres compositions qu'on trouve dans le système solaire, tels que les météorites ou bien le soleil qu'on analyse grâce aux particules qu'il émet.
Pourquoi Bernard Marty,
on ne savait pas d'où elle venait.
Ouais, pourquoi vous êtes intéressé justement à ce gaz rare sur Terre, le xénon ?
Bien, en fait, c'est parce qu'il a une composition isotopique il a beaucoup d'isotopes, donc il y a beaucoup d'éléments de réflexion, et il y avait cette composition un peu énigmatique dans l'atmosphère terrestre qui fait que nous nous sommes dit que ce réservoir caché, peut-être qu'il est contenu dans le système solaire externe, lointain, et peut-être que grâce à une comète, l'analyse d'une comète, on va pouvoir explorer si c'est la source d'une partie des gaz atmosphériques.
Alors Bernard Marty, pourquoi ce résultat arrive si tard dans le calendrier de la mission Rosetta, qui s'est déjà crachée sur la comète d'ailleurs ?
Parce qu'il a fallu analyser beaucoup de données, donc ce sont des analyses qui ont été faites par l'Université de Berne, qui était le principal investigateur de l'instrument qui a permis cette analyse. Il a fallu beaucoup de temps, il y avait beaucoup de données, il y avait des traitements statistiques à faire. Et puis il y a une foule de données aussi qui est venue de cet instrument, de ce spectromètre de masse. Et tout ça, ça nécessite du temps, de la réflexion, de l'analyse, avant de sortir, si vous voulez, des résultats dans un sens ou dans l'autre.
Et ça a été une des toutes dernières manipulations, c'est ça qui a été réalisé juste avant le crash de Rosetta.
Non, ça a été fait en fait en mai 2016, c'est-à-dire quelques mois avant que la comète ne s'écrase. Et ça a pu être fait parce que il fallait en fait des conditions assez spéciales pour faire cette analyse. Il fallait se rapprocher de la comète à quelques kilomètres, de façon à avoir suffisamment de signal. Parce que le gaz qui a été analysé, le xénon, est en très faible abondance, et donc il fallait se rapprocher au maximum.
Alors,
là, ça, c'était pas du tout évident, Enfin, c'était compliqué quand même.
Vos résultats sont issus de l'analyse d'une seule comète. Est-ce que ça veut dire que vous supposez que la composition de toutes les comètes est la même ?
Pour l'instant, on n'a pas trop le choix, puisqu'il n'y en a qu'une seule comète qui a réellement été analysée. C'est quand même 1,4 milliard l'analyse. Donc, si vous voulez, on aimerait beaucoup avoir d'autres analyses cométaires, mais voilà, il y a des contraintes. Alors quand même, on a cette relation génétique, on a ce signal particulier qui est vraiment unique, que l'on pensait unique dans le système solaire, qui est dans l'atmosphère, et on trouve enfin un corps qui contient également ce signal. Alors, on peut supposer qu'effectivement, d'autres comètes vont être différentes, mais enfin, c'est déjà pas mal d'arriver déjà au moins à avoir une relation génétique.
S'il y a 4 milliards d'années, les comètes apportaient une partie du xénon sur Terre, qu'est-ce qu'elles apportaient avec le xénon ? On imagine bien qu'elles amènent d'autres choses.
Bien sûr, les comètes, ce sont des corps qui sont riches en éléments volatiles, sous forme de glace. Donc il y a eu d'autres espèces qui ont été amenées, il y a de l'eau. Alors, il y a pas beaucoup d'eau, en fait, comparativement au xénon, il y a peu d'eau qui a été amenée sur Terre. On estime à peu près qu'il y a au maximum 1% de la masse des océans terrestres qui aurait été amenée par de la matière cométaire. Simplement parce qu'une comète, c'est très riche en gaz rare, xénon, et si vous mettez un peu de comète, vous le verrez tout de suite dans certains traceurs comme les gaz rares, et vous apporterez pas tellement d'eau. Mais par contre, il est possible que ces comètes aient apporté de la matière organique, c'est-à-dire des molécules organiques plus ou moins complexes, dont des acides aminés. Et à ce moment-là, comme elles sont riches en matière organique, on peut également penser qu'elles ont amené un stock de matière organique important.
Quelle quantité on peut imaginer
Alors, ce sont des estimations qui sont vraiment faites pour l'instant, qui sont très 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 vagues, et puis on n'a qu'une seule comète, mais on peut imaginer qu'on a amené une quantité de matière organique qui serait comparable à la biosphère terrestre, c'est-à-dire à l'ensemble des organismes vivants sur Terre.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est
pas négligeable. Ben oui, vous nous dites ça comme ça en passant, Bernard Marty, mais c'est quand même très très surprenant. C'est-à-dire qu'on devrait tout ce qui existe en biomasse sur Terre, on le devrait aux comètes, c'est ça ?
Non. Disons que la quantité de matière organique qui a pu être amenée par les comètes en masse est équivalente à ce qu'on a sur Terre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on en a sur Terre a été amené par les comètes.
D'accord.
Parce que vous imaginez bien que quand les comètes se sont écrasées sur Terre, c'est à très haute vitesse, une grande partie a été volatilisée à très haute température, la matière organique a été défaite. Mais on peut laisser la porte ouverte à la possibilité que certaines briques nécessaires au développement de la vie sur Terre aient pu être apportées par des comètes.
Bon, précision importante, effectivement. Merci beaucoup Bernard Marty pour vos explications, à l'occasion donc de cette publication qui vient de sortir dans la revue Science et dont vous êtes le premier auteur. Merci à vous.
Je vous en prie.
Et merci, Axel, merci. À demain.
À demain.
Allez, dans un instant, on parle agriculture durable avec les Bourguignons. Andromeda Gorilla sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Avec Lydia et Claude Bourguignon, vous êtes donc les invités de l'émission à l'occasion de la publication de votre manifeste pour une agriculture durable, publié chez Actes Sud. Avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages arrivent déjà nombreux sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Lydia, Claude Bourguignon, d'abord un mot sur votre travail. Vous qui êtes microbiologiste avec ce laboratoire que vous avez fondé en 90, laboratoire d'analyse microbiologique des sols. C'est un laboratoire indépendant, Lydia Bourguignon. Qu'est-ce que vous y faites exactement en Côte d'Or, hein, c'est là qu'il se situe.
Oui, il se situe à Marais-sur-Tille en Côte d'Or. Oui, c'est un laboratoire indépendant qu'on a créé avec mon mari Claude en 1990. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, déjà, on intervient chez les agriculteurs et chez les vignerons. C'est vraiment la particularité de notre laboratoire. Et avec donc ces agriculteurs, on va faire une audite de leur sol. Donc, on va regarder comment, qu'est-ce qui se passe en surface, mais aussi en profondeur. Et en fonction des différentes choses qu'on verra dans ce sol, on va ramener les prélèvements au laboratoire. On va faire des analyses sur trois plans, entre autres surtout la vie dans le sol. Et en fonction de ça, ben, on va faire un conseil, une ordonnance pour l'agriculteur, pour qu'il gère de façon durable et surtout en utilisant le moins possible de produits, disons, en cides, qui détruisent nos sols.
Ouais, Claude Bourguignon, ça c'est un travail que vous faites dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on vous appelle de partout pour faire ces analyses de sol, justement?
Ah oui, dans le monde entier. Là, on a fait plus de 9000 analyses de sol à travers la planète, sur tous les continents, sauf l'Antarctique.
Ouais. Et vous avez des échantillons, alors? On peut dire que vous avez une bibliothèque, quasiment, des sols du monde entier, maintenant?
Alors, on a des données dans notre ordinateur, oui, qui sont assez uniques, puisqu'on a les données de ces 9000 sols sur les plans physiques, chimiques, biologiques, de la surface jusqu'au fond.
Ouais.
Donc, c'est une donnée intéressante qui nous permet de faire des études statistiques et de voir les problèmes importants.
Ouais. Vous archivez les échantillons, justement, que vous rapportez de partout, ou pas?
Non, on archive les plus intéressants, mais on peut pas tout archiver parce que 9000 échantillons, ce serait...
Oui, mais justement, c'est une mémoire aussi très intéressante du sol tel qu'il est aujourd'hui, un peu partout sur la planète, non?
Oui, mais on peut pas archiver, comme dit Claude, 9000 terres dans le monde. Par contre, effectivement, on a archivé ces données puisqu'on analyse une soixantaine de paramètres au niveau de ces sols.
Oui.
Le problème, c'est que nous ne sommes pas des grands statisticiens, c'est pas notre formation,
oui.
Et que il y aurait une vraie étude.
Absolument,
on a commencé.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, c'est une prise de conscience, puisqu'on a commencé en 90, nous sommes en 2017, et on voit déjà des choses, puisqu'on a quand même travaillé dessus, on voit des choses intéressantes, par exemple, bon, dans l'agriculture biologique, ou en agriculture respectueuse de l'environnement, eh bien, en fait, l'activité biologique remonte, on a plus de faune, on a plus de vers de terre, et ça, c'est la qualité d'un sol en bonne santé, mais aussi de produits de notre alimentation de meilleure qualité.
Donc ça, c'est le recul déjà que vous avez depuis les années 90, Claude Bourguignon.
Voilà, on a vraiment un recul et on a
qui
vu les sols.
De voir la transformation des sols quand on opère.
Exactement, on a vu vraiment l'activité s'effondrer et puis depuis quelques années, ça s'est stabilisé et puis ça a tendance un tout petit peu à remonter.
Un tout petit peu à remonter seulement. C'est très long.
Oui, c'est long, mais on voit qu'il y a quand même une prise de conscience chez les agriculteurs.
Ouais. Qui sont ceux d'ailleurs qui font appel à vous, alors en général? Ce sont des agriculteurs qui travaillaient dans le conventionnel et qui décident de tourner un petit peu le dos à cette pratique-là?
Oui, c'est la majorité. C'est des gens qui sont en conventionnel et qui veulent évoluer. Mais ceux qui nous demandent le plus le travail, c'est les vignerons. Parce que dès que l'activité biologique du sol remonte, les vins se transforment. Ils ont des points dans les guides de dégustation. Donc, c'est nos principaux clients.
Il y a un impact économique.
Voilà, il y a un impact économique immédiat.
Oui, il y a quelque chose de nouveau, si je peux me permettre. C'est qu'on voit beaucoup de néo-ruraux qui, en fait, veulent revenir à l'agriculture, veulent changer.
Ouais.
Et en fait, je pense que pour la plupart, sont des gens qui ont déjà fait cette démarche de dire certainement s'ils veulent revenir c'est pour mieux se nourrir, et ces personnes-là sont absolument ouvertes à cette, entre guillemets, nouvelle agriculture, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de ces produits-là. Ils sont, c'est beaucoup plus facile avec eux, quelque
Alors,
part.
Ça, c'est intéressant, parce que d'abord, vous dites à quel point on manque de paysans en France, et puis ça veut dire aussi que les consommateurs qui se transforment et qui deviennent, eux, parfois aussi, agriculteurs, ont un poids très important, justement, dans cette prise de conscience et dans ce revirement, là, un petit peu de situation.
Alors là, nous, on trouve, et Claude, ça fait 2-3 ans, c'est vraiment très... Il y a un vrai changement. C'est vraiment important puisque nous, on est de plus en plus sollicités et que ça soit...
Par des gens qui sont pas du tout agriculteurs à la base.
Oui, parce que les citoyens demandent une autre alimentation. Ça, c'est quand même très, très net. Chaque fois qu'on fait des conférences, c'est des choses qui viennent. Et puis, cette demande même des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs. Souvent, c'est cette jeunesse qui dit « Je ne veux pas avoir le modèle de ce qu'on faisait autrefois. Je veux changer. Je veux que ma terre ou ma ferme soit durable pour mes enfants. » Et ça, c'est un vrai changement.
Oui. Claude Bourguignon, c'est quand même encourageant, ça. Vous qui, depuis maintenant, oui, ça fait 40 ans hein, que vous allez prêcher parfois dans le désert, malgré tout. Et puis,
on se faisait même insulter au début. Ouais. Quand j'ai des conférences sur la dégradation des sols, on se faisait insulter. Maintenant, c'est fini, on n'a plus du tout d'insultes. Et c'est vrai, on est à chaque fois qu'on... Là, par exemple, on a fait un agriculteur en conventionnel sur 360 hectares près de Verdun. On l'a fait passer en biodynamie. Il a fait revenir les bêtes. Vous savez, faire revenir des bêtes par un céréalier, c'est quand même pas fréquent. Il est maintenant président des céréaliers biodynamistes de France. Donc ça, pour nous, chaque fois qu'il y a des agriculteurs qui changent leur façon de gérer leur sol, bon, on se dit on n'a pas perdu notre temps sur cette planète.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a assez de main d'œuvre aujourd'hui justement pour réaliser ce rêve que vous prenez là finalement?
Alors ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Et puis, on a perdu depuis les années 50, 80, plus de 90% des agriculteurs. Et en fait, pour faire une agriculture durable, et puis la terre a besoin de mains, elle en souffre pour pouvoir... Parce que un agriculteur, avec les techniques modernes, bon, avec l'irrigation, avec tout ce qu'on leur a donné, effectivement, il peut tout seul exploiter 500 hectares. Je dis exploiter, le mot est vraiment choisi. Par contre, si on veut faire une agriculture durable, il va falloir la gérer. Et donc, il faut des hommes ou des femmes, mais il faut des mains, il faut des bras.
On va écouter un document de l'année 99 autour de l'agriculture intensive, justement. C'était autour de l'affaire de la contamination alimentaire par la dioxine qui relançait justement les critiques sur l'agriculture. Et puis c'était l'occasion de regarder en arrière dans les années 60 ce qu'était le paysage de l'agriculture en France.
Chaque année, la France produit 2 millions de tonnes de porc, autant de viande de bœuf, 1,5 million de tonnes de fromage, des wagons de blé et de légumes. La France est le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. Cet essor prodigieux a démarré il y a près de 40 ans. À l'époque, De Gaulle et Pompidou voulaient sortir la paysannerie française de son retard. L'Europe se construisait aussi. Un accord est passé, aux Allemands les machines-outils, aux Français l'agriculture. L'autosuffisance est l'objectif prioritaire. Mais très vite, la conquête des marchés européens s'organise. L'agriculture devient moderne, performante, mécanisée. L'emploi massif des engrais, des pesticides augmente les revenus.
Voilà, ça c'est les années 60, hein, commentaire fait en 99. Mmh. Les choses ont bien changé, Lydia Bourguignon, quand même, heureusement. Hein.
Oui, les choses ont bien changé, mais bon, j'entendais en 1960 que la France était première exportatrice de produits. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans le cas. Ouais. On exporte peut-être les céréales, mais je veux dire, au niveau, on était la France, pour certains produits, comme les fraises, on était premier, on est passé derrière plein de gens, parce qu'en fait, on est sur une agriculture industrielle. Donc,
ben justement, il y a une carte à jouer aujourd'hui aussi, qui est très importante, du côté du durable, précisément, non?
Ben oui, parce que la France a la géologie la plus complexe du monde avec Madagascar. C'est vraiment un pays de terroir. Et elle a joué la carte de vouloir copier l'Amérique du Nord, alors qu'on ne peut pas faire des champs de la taille. En Amérique du Nord, vous pouvez faire 250 km sur le même sol. En France, vous faites 50 km, vous changez d'architecture, vous changez de climat, vous changez de géologie. Et c'est pour ça que la France était un pays de terroir. Et c'était ça, alors, qui aurait dû être le... On devrait être le produit de terroir de la planète. Et on a joué, à mon avis, une très très mauvaise carte et on a perdu nos paysans.
Richard nous dit, les sols forestiers évoluent naturellement. Le rôle des champignons est primordial. Ils participent à la décomposition du bois mort qui se transforme en terreau, en mulch. Pourquoi l'agriculture ne s'est pas inspirée de l'exemple forestier? Alors vous en parlez justement dans le manifeste. Hein.
Oui, on voit... Des fois, on se dit que l'agriculture réinvente le fil à couper le beurre, parce qu'on parle beaucoup d'agroforesterie. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va intégrer l'arbre dans la céréaliculture et qui va jouer effectivement ce rôle. En plus, l'arbre est le seul organisme vivant qui est capable, quand on a un excès d'eau, de remplir les nappes phréatiques. Donc, si on met des arbres dans un champ, on va beaucoup mieux gérer l'eau. Et puis, effectivement, comme disait ce téléspectateur,
cet auditeur,
excusez-moi.
Même si on est entouré de caméras.
Oui, excusez-moi. Cet auditeur, en fait, effectivement, bon, les champignons vont dégrader la lignine et sur ces champignons, on va avoir de la faune qui va faire du compost et c'est l'or brun du sol, quoi. C'est l'or.
Allez, on se retrouve dans un instant justement pour évoquer cette agriculture durable à l'occasion de la publication de votre manifeste aux éditions Actes Sud.
Marée haute du ressentiment, visage émacié sur la digue. Que faire de sa colère? Que faire de sa fatigue? Fable validée sous serment, marée haute. Tu y croyais comme l'enfant peut croire. À qui la faute? Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres. Marée haute. Traîtrise des roses, marée haute. Chemise noire. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue, les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage, ton âge t'y a préparé. Naufrage. Combien pour t'y pousser? Traîtrise des roses, marée haute, commençait déjà de trembler. Larguée, mais c'était pas ta faute. Lesté de plomb qui peut flotter. Marée haute. Visage tendu sur la digue et main à paume retournée.
Valparaiso, Dominique, à Marée Haute sur France Inter. Lydia Claude Bourguignon avec nous pour ce manifeste pour une agriculture durable. C'est aux éditions Actes Sud. Alors vous le disiez, c'est plutôt encourageant quand même parce qu'il y a un changement important de prise de conscience qui est tout récent. Vous parliez de 2-3 ans à peine dans le monde agricole sur le rapport au sol. Quand on vous lit, on se dit que c'est quand même assez désespérant d'être obligé de convaincre l'humain de la nécessité de préserver les sols, ces sols qui nous nourrissent. Et on voit les effets évidemment de cette agriculture intensive. C'est quand même étonnant, non, ce paradoxe.
Bah oui, parce que la terre nourricière, vous savez comment on dit en états-unien la terre, ils disent dirt, la saleté. C'est intéressant, une civilisation qui appelle sa terre nourricière la saleté. Alors que cette terre, normalement, c'est un patrimoine qu'on doit léguer à nos enfants. Et le rôle de l'État, c'est de protéger ce patrimoine. C'est pas de... Nos sols sont fertilisés, mais ils ne sont plus fertiles. Mmh. C'est ça la grande différence. Ouais, ouais. Et le rôle de l'État, c'est de permettre à nouveau à nos sols d'être fertiles.
Ouais. Lydia Bourguignon, est-ce que vous n'êtes pas un peu catastrophiste? Certains vous le reprochent d'ailleurs.
Oui, ça, on l'a tellement entendu depuis presque, enfin 30 ans. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous disait déjà ça il y a 30 ans, qu'on était catastrophique. Et puis, il y a 30 ans, ça allait même un peu mieux quand même. Donc, je ne trouve pas que nous sommes catastrophiques, nous sommes réalistes. Il y a une vraie réalité, il y a de plus en plus de gens qui sont malades, il y a de plus en plus d'agriculteurs. Il faut savoir que dans le monde, c'est la profession qui se suicide le plus. Donc, il y a un véritable drame, donc catastrophique. Non, réaliste, ouais. Oui.
Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs. Paul demande combien de temps faut-il au sol pollué pour retrouver leur dynamisme? Comment justement les dépolluer? Alors, question centrale, évidemment, Claude Bourguignon. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, d'abord, il faut être patient, ça c'est sûr.
Oui, il faut être patient.
Et mais il y a quand même une résilience possible.
Tout à fait, oui. Non, les sols, bon, ça dépend de la façon
dont ils des sols aussi, gérés,
mais gérer entre 5 ans et 20 ans, on remet un sol debout.
20 ans?
Ah, il y a des sols où il faudra 20 ans, oui, parce qu'on les a vraiment dégradés.
Et ils retrouvent toute sa vigueur, vraiment.
La nature est généreuse.
20 ans, c'est quand on est sur des gens qui font pas de rotation. Donc là, il y a tout un il faut remettre certaines la règle d'agriculture. Et puis les plantes les plus difficiles pour les sols, c'est ce qu'on appelle les plantes sarclées, c'est-à-dire les betteraves, les pommes de terre. Et ça, les gens du nord qui font ce genre de culture.
Pourquoi ce sont les plus difficiles?
Parce qu'en fait, comme on dit, elles sont sarclées, donc la terre est énormément retournée. Mmh. En plus, souvent, on intervient dans des périodes humides, on récolte pas quand les terrains sont secs. Donc, en fait, les machines qui sont très lourdes font beaucoup de dégâts sur les sols.
On en avait parlé d'ailleurs, la question du labourage.
Oui, déjà.
Ouais.
Et la pomme de terre, pour l'instant, elle est encore... on retourne la terre pour la récolter, on la bute, voilà.
Ça, cet acte du labourage, il faut l'oublier au maximum.
Ça, il faut complètement l'oublier. Oui. Ouais. La charrue est une arme de destruction massive des sols, mais elle est ancrée dans la mentalité des agriculteurs.
C'est
pour ça que c'est très compliqué. Et faire arrêter le labour, c'est plus un problème de psychologie qu'un problème technique, parce que il y a à l'heure actuelle à peu près, nous le premier agriculteur qu'on a fait passer en semi-direct sous couvert, on lui a fait arrêter le labour. Quand il a commencé en 2000, il était à 1,6% de matière organique, il est maintenant à 4,6%. Vous voyez, en 2017. Donc, il a pris 3% de matière organique sans rien faire d'autre que d'arrêter de labourer. C'est-à-dire qu'il a remis debout sa matière organique sans dépense. Au contraire, il a un tracteur moins puissant puisqu'il laboure plus. Il a en un passage, il sème. C'est une grande économie de temps et il restaure son patrimoine.
Qu'est-ce que c'est le semi-direct exactement?
Semi-direct, ça veut dire qu'on ne touche plus à la terre, on moissonne, on couche les épis de la paille et on sème directement une couverture. Et dans cette couverture, qui va pousser pendant l'été, on va ressemer la culture d'hiver.
Le problème, c'est une technique qui est, on va dire, compliquée. C'est pas facile, le semi-direct sous couvert. Et les agriculteurs ne sont pas accompagnés. Ils sont accompagnés pour le labour. On va leur vendre le gros tracteur. Et il y a tellement de réticences qu'en général, on leur fait plus peur de cette technique plutôt que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une très, très grosse réticence sur le semi-direct sous couvert.
Qu'est-ce qui se passe dans les écoles d'agriculture aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend aux plus jeunes qui veulent faire ce métier-là? On a une offre possible? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enseigne? L'agriculture intensive? Et puis à côté, est-ce qu'il y a des formations pour enseigner une agriculture plus durable? Comment ça se passe?
C'est en train de changer, là aussi. Je dirais que peut-être, quand on parlait de quelques années, le Grenelle de l'environnement, même si ça a été long à mettre en place, que c'était quand même beaucoup d'effets de manche, mais il y a eu une demande qu'il y ait une forme d'agriculture plus respectueuse et dans les collèges ou dans les lycées. Nous, avant 2007, on n'intervenait quasiment jamais. On pouvait pas intervenir. Et maintenant, on nous demande d'intervenir et des professeurs disent, on utilise notre premier livre qui s'appelait Le sol, la terre et les champs pour expliquer comment fonctionne un sol, quelles sont les lois, comment durable, l'agroforesterie, le semi-direct sous couvert, la permaculture, toutes ces techniques pour respecter les sols.
À la permaculture, justement, tiens, on va écouter un reportage qui avait été réalisé par Lucie Sarfati, notre Lucie à nous, en Normandie, au Bec-et-Loin, évidemment. Au lieu de la permaculture, c'était en mai 2015.
Évidemment.
Et ici, on arrive dans les jardins. Alors, cette parcelle fait 1,2 hectare. Et il y a 8 ans, c'était un grand herbage d'un seul tenant. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien. Et c'est devenu une mosaïque de petits milieux. Vous voyez, il y a des arbres fruitiers absolument partout. Il y a des mares, on voit les cabanes. Là, tout à l'heure, il y avait un martin pêcheur qui passait. Il y a des îles jardins, il y a la forêt jardin à l'ouest. Et là, il y a des serres, il y a toutes sortes de jardins. Au fond, il y a le jardin mandala. Donc finalement, à partir d'un bête herbage assez médiocre d'un hectare deux, on a une mosaïque de petits écosystèmes qui interagissent, qui s'interpénètrent, qui profitent les uns des autres. Parce que la permaculture, c'est un peu l'art de s'inspirer de la nature. Et effectivement, ce qui caractérise le monde naturel, vivant, c'est qu'il y a une grande biodiversité, mais les éléments sont très connectés entre eux. Tout interagit, tout échange, il n'y a pas de déchets. Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. Donc finalement, la nature a un génie inimaginable, et à partir de très peu, elle produit vraiment beaucoup, et durablement, et sans générer aucune pollution.
Voilà, la permaculture, vous êtes en accord avec cette façon de faire, Lydia Bourguignon ?
Oui, ben on travaille avec le bec qui loin, donc. Mais la permaculture, c'est très très inspiré. Et d'ailleurs, il s'inspire de ce que faisaient les maraîchers au 19e. C'est la contre-plantation, c'est-à-dire utiliser au maximum les surfaces pour faire ce que fait le bec qui loin. Donc,
au fond, c'est ce que vous dites dans le manifeste, c'est revenir à cette agriculture durable qui a existé et qui était au cœur des civilisations.
Hein. Tout à fait, qui était basée sur l'association et la rotation, alors que maintenant, on est en monoculture et on n'associe plus les plantes entre elles et on ressème les mêmes plantes tout le temps. Mmh. C'est l'inverse de on ne fait plus d'agronomie, on fait de la pétroculture. C'est ce qu'on explique dans notre livre. On consomme beaucoup de pétrole.
Et pas de soleil.
Ouais. Pour pouvoir faire pousser des plantes avec des engrais chimiques. Donc, alors que si on pratique la rotation et l'association comme ils ont fait pendant 7000 ans, on peut nourrir toute l'humanité.
Pierre nous dit sur Facebook, je suis paysan en Bretagne, on essaie d'élever des brebis avec le plus de respect pour elles et notre territoire. Seulement, les terres y sont pauvres et surtout acides. Si nous voulons remonter le pH, il nous faudrait importer des amendements calciques provenant de carrières ou de sable marin, donc on ne le fait pas. Quelle durabilité pour les sols bretons avec un minimum d'impact sur les écosystèmes globaux ? Question de Pierre, qui veut répondre ? Claude Bourguignon.
Autrefois, les anciens pratiquaient ce qu'on appelait les amendements, c'est-à-dire ils apportaient le compostage, ils apportaient l'humus, et le marnage, ils apportaient des argiles calcaires pour créer un complexe argilo-humique. Ces techniques ont été complètement abandonnées depuis la guerre de 14, depuis la disparition de nos paysans. Et c'est vrai qu'une terre acide comme ça, s'ils s'en occupent pas, il y a un moment, ça sera pas durable.
Mais il le fait pas, apparemment, pour des raisons aussi écologiques et énergivores. Le fait d'apporter justement ces sables marins, par exemple.
Non, on n'est pas obligé d'aller chercher les sables marins, on peut aller chercher une marnière près de chez eux. Enfin, des marnières, il y en avait dans toute la France. Les paysans allaient.
Elles ont toutes été fermées
ou recouvertes abandonnées, couvertes de ronces, mais il y a des marnières partout en France.
François dit, je commence à m'occuper d'un potager. Mon jardin est rempli de cailloux, de racines. Il s'agit d'un ancien sous-bois. J'ai entendu parler du potager en lasagne pour y remédier. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Vous êtes au courant ?
Oui, mais là, quand on entend ce genre de propos, effectivement, les gens oublient, et les anciens le savaient, sans revenir à l'âge de pierre, en fait, cette vocation des sols, quand vous avez un sol qui est quand même plein de cailloux, souvent la forêt, qui n'est pas une forêt primaire, elle pousse sur des endroits qui ont été abandonnés par les hommes, donc il y a énormément de cailloux. Donc quand vous repartez pour faire du maraîchage sur une forêt, bah effectivement, ça va être très compliqué, parce que le maraîchage avec les cailloux, et nous, on préconise, on parle de vocation des sols. Vous avez des sols pour faire du maraîchage, et vous avez des sols pour faire de la vigne ou des céréales.
C'est un auditeur de Moëlan-sur-Mer, dans le Finistère, justement, qui nous écrit. Claude Bourguignon. Donc effectivement, il faut faire des choix aussi sur les cultures.
Beaucoup de néo-ruraux nous appellent trop tard. Ils ont déjà acheté la terre et quand l'autre fois on a été appelé par des jeunes, ils avaient acheté une terre extrêmement sableuse et ils n'avaient pas d'eau. Alors faire du maraîchage sur une terre sableuse, donc très filtrante, sans une source d'eau, ils se mettent à un obstacle énorme pour pouvoir démarrer.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion et vos réponses aux messages qui arrivent toujours sur franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. I got the blues.
and I feel just fine. I wanna die, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. You're so
Les chiffres, I got the blues.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Manifeste pour une agriculture durable chez Actes Sud. Lydia et Claude Bourguignon sont nos invités avec beaucoup de questions des auditeurs. Pourquoi vous ne montez pas une école avec tous vos camarades de l'agriculture durable? Parce qu'on a besoin de pédagogie aujourd'hui justement pour agir autrement.
Bah, je pense que c'est la dernière chose qu'on va... Enfin, la dernière.
La dernière avant quoi?
Ouais, que on voudrait faire, c'est-à-dire
c'est pas
faire...
la dernière des choses dont vous avez envie, c'est la dernière des choses que vous envisagez
qu'on
de faire.
Qu'on va envisager de faire, parce que entre écrire, aller voir les agriculteurs, les vignerons, ouais. Mais en fait moi c'est mon rêve.
Non mais ça c'est très important la pédagogie.
Enfin, c'est mon rêve et puis je pense que c'est la dernière chose qu'on a à faire, c'est sans prétention, mais en fait, de mettre en relation et de faire une école, mais qui soit en fait transversale. C'est-à-dire, il faut parler du sol, mais il faut parler des semences. Ce n'est pas l'objet de cette d'aujourd'hui. Il faut aussi parler du rapport à l'aliment. Pourquoi et médecin et tout. Donc, ce qui était autrefois, quand on a enseigné à l'école de Beaujeu, qui était une école de biodynamie, qui était comme ça transversale. Donc, on en parle, mais il faut que ça soit une école privée, parce qu'on...
Donc, il faut des mécènes.
Il faut des mécènes, voilà.
Mais ce serait intéressant, donc, Claude Bourguignon.
Ah oui, je crois, puis ça manque.
Avec vos copains permaculteurs, par exemple.
Ah voilà, tout à fait.
Il y aurait des
tout
choses à
fait,
faire. Ouais. Surtout qu'il y a une demande, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe.
On y pense très, très sérieusement.
Et Lydia, on voudrait une école transversale. Ça, c'est on voudrait aussi qu'il y ait des agriculteurs qui viennent enseigner. Ça manque totalement dans les lycées.
Mais il faut
des agriculteurs.
Allez-y. Oui. Oui. Allez-y. Lancez l'appel sur les ondes.
Mathieu.
Si vous avez besoin de gens pour vous aider.
Oui, Mathieu.
Bon, on en reparlera, j'espère, en tout cas, avec vous.
Eh ben, le jour où on fera l'école, vous nous inviterez, puis on présentera notre école.
Avec plaisir. Martin nous dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer aux nombreux permaculteurs, créateurs de buts de culture, pourquoi il faut éviter dans nos régions d'enfouir du bois ou de la matière organique dans le sol? Qu'est-ce que c'est la butte de culture exactement?
Les buttes de culture, souvent quand on parle dans la permaculture, il y a des personnes qui se sont mis, on va faire des buttes. Et il y a en ce moment, je dirais, une mode où on enfouit, on enlève la terre sur un certain nombre de centimètres, et en fait on met des troncs en profondeur dans le sol, et puis on va recouvrir avec des déchets, et puis après on va remettre de la terre dessus. Et ça, c'est inspiré des buttes qui sont faites effectivement au Cameroun, en Afrique, parce que bon, les sols sont différents et que la faune qui est dans ces sols, c'est des termites. Et les termites, on le sait, attaquent le bois. Donc en fait, on voit des choses qui se mettent en place en France comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes climats. Et par exemple, dans des zones où on a beaucoup, beaucoup d'argile et où les terrains sont humides, pour nous, c'est une aberration de mettre en profondeur du bois qui va pourrir, qui va mettre énormément de temps, qui va consommer beaucoup d'azote. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose, on en entend sans arrêt parler.
Donc il y a une mode là autour de ça en ce moment.
Nous, on trouve qu'il y a une mode.
Hein, bah, comme il y a eu la mode de la terra preta, qui est une technique développée par les Indiens d'Amazonie sur des sols à caolinite extrêmement pauvres, où pour garder un petit peu d'éléments nutritifs, ils mettaient du charbon brûlé. Alors maintenant, les gens, ils se mettent à faire de la terra preta en France, alors que nous, on a beaucoup de, plus de matière organique dans nos sols, on n'a pas le même climat, on n'a pas le même type d'argile. Mais souvent, les gens, ils prennent des modèles comme ça, et puis ils les appliquent directement chez eux, sans se poser la question pourquoi ce modèle a été fait au Cameroun, a été fait en Amazonie. Oh, on calque, c'est la mode, on suit les modes.
Elisabeth sur Facebook nous dit: j'ai acheté une maison dont le jardin était entièrement recouvert de ciment et de béton. J'enlève tout ça, mais la terre semble morte. Aucune larve, pas d'insectes, pas de plantules. Est-ce que vous avez une idée de la résilience de ce sol ou est-ce qu'il est définitivement mort?
Non, il n'est pas définitivement mort. Ce qu'on peut se conseiller à cette personne, c'est d'essayer pendant un an, deux ans. Maintenant, on trouve ça dans des jardineries, ce qu'on appelle, elle va utiliser des céréales. Les céréales sont les plantes extrêmement restauratrices parce qu'elles ont un enracinement très particulier. Donc, elle va assouplir ce sol. Si elle peut, ben, elle le coupe, hein, ou elle passe une tondeuse, elle va le couper, elle va laisser ses fans de ses céréales au sol. La faune va se remettre debout, va revenir, et petit à petit, elle aura, par contre, ça sera long.
Patience.
Mais il y a une résilience, et heureusement, parce que vraiment, la nature est bonne fille, hein, parce que on peut la remettre debout quand on lui a fait beaucoup de mal.
Et puis, il faut, première chose à faire, très importante, autour du jardin, planter une haie, mais une haie de feuillu, pas une haie de résineux. Et il faut qu'elle choisisse des espèces qui font une floraison qui va du mois de mars jusqu'à l'automne pour qu'il y ait à manger pour les abeilles, parce que les abeilles n'ont plus rien à butiner dans cette France d'agro-industrie. Et cette haie va lui permettre d'avoir ensuite du bois raméal fragmenté qu'elle pourra mettre sur son sol.
Du
bois raméal fragmenté, c'est le bois de taille qu'on met sur le sol, et comme ça il y a beaucoup de carbone, de lignine, c'est les champignons qui vont venir, et comme a dit Lydia, les champignons c'est à la base de la pyramide alimentaire du sol, donc la faune va venir et puis son sol va repartir.
Sébastien nous dit: ne pensez-vous pas qu'il faudrait inventer une école sur les sols? Voilà, on insiste, hein, on est un peu lourd, mais je crois que c'est important. Patrick nous dit: la ville dans laquelle j'habite veut imposer les bouts de sa station d'épuration pour enrichir les sols des paysans, ne contiennent-elles pas des résidus dangereux?
Alors ça, c'est un vrai problème, les boues, parce que comme les boîtes, je veux dire, ne savent plus quoi faire de ces boues. Nous, on met un point d'interrogation sur ces boues. Il faut savoir d'où elles viennent, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles contiennent, parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes sur les sols. Est-ce qu'elles sont bien compostées? Donc nous, on est assez réticents. Hein. La Champagne en a utilisé beaucoup et elle en souffre beaucoup encore maintenant.
Ouais. Pierre nous dit sur Twitter: je m'installe en bio. Comment arrêter le labour et gérer l'enherbement en mélange céréalier?
Donc là, s'il veut passer en semillage et se couvert en biologie, ça là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Il faut qu'il sème après sa céréale un mélange de plantes. C'est une loi de la botanique. Au-delà de 6 espèces de plantes côte à côte, en association, vous étouffez plus de 90% des mauvaises herbes. De toute façon, en bio, faut pas rêver, il aura toujours un peu de mauvaises herbes. Ce qu'il faut, c'est qu'il maintienne la population à un certain niveau. Et pour ça, il faut faire une association complexe de couverts qu'il écrasera avec un rouleau et il ressèmera dedans.
Frédéric nous dit: j'habite dans le Tarn, je suis outré de voir à la sortie de l'hiver certains agriculteurs passer du désherbant dans leurs champs pour tuer les herbes qui ont poussé durant l'hiver, alors qu'il suffit de passer un coup de herse pour les retourner. Celles-ci nourriront le sol en plus. Je considère cela comme une pollution volontaire, voire de l'empoisonnement.
Oui, il a en partie raison, parce que quand on a un enherbement naturel de l'hiver, on n'a pas besoin de défoncer un sol. Ces plantes ont fait ce qu'on appelle le lit de semences, elles ont fait une structure au niveau du sol, et ça, la herse, il a totalement raison, ça va permettre d'enlever ces mauvaises herbes, pas trop profondément, puis il pourra semer, donc il a parfaitement raison.
Est-ce que les populations de vers de terre vont un peu mieux aujourd'hui, Lydia Bourguignon, ou pas? Parce qu'il y a des chiffres que vous citez dans le livre, qui sont passés de 2 tonnes par hectare à moins de 100 kilos par hectare en 50 ans.
En céréalicule. Oui.
De 2 tonnes à 100 kilos.
Oui. Alors, on revoit des vers de terre. Bon, alors c'est vraiment, on enfonce le clou. Je veux dire, chez des gens qui sont en semi-direct sous couvert, ça c'est étonnant. Parce que comme il y a beaucoup de matière organique, comme on laisse les pailles et le couvert, bah, le vers va venir à le rechercher, puisque c'est sa nourriture, il va le brasser. Donc on a une augmentation très forte. Et puis, dans les jardins en permaculture ou les jardins en biologie, ça c'est évident.
Oui. Donc, donc le rôle essentiel, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans l'émission. Il faut redéfinir l'agriculture, le terme même, hein, c'est ce que vous proposez aussi, Claude Bourguignon.
Oui, nous on dit qu'il faut maintenant parler non plus d'agronomie, c'est-à-dire imposer notre loi au champ, hein, en grec, mais agros logos, l'agrologie, c'est-à-dire connaître son champ et à partir de ce champ, le gérer comme il doit être géré.
C'est ce manifeste pour une agriculture durable, 60 pages concentrées aux éditions Actes Sud et que vous signez Lydia et Claude Bourguignon. J'espère que vous nous inviterez pour l'inauguration de votre école dans quelques années. Et en attendant, vous partez où? C'est quoi le prochain voyage?
On va partir, on part en Inde, ouais. Voilà, pour dans le Punjab et dans la zone. Et puis après, au Chili et en Argentine.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus cet après-midi dans La Tête au Carré.